Je remercie et j'aimerais remercier les organisateurs du colloque de nous avoir invités, Pierre et moi, à présenter sur le thème du constitutionnalisme global. Nous avons chacun prévu un texte qui ne dépasse pas 20 minutes, donc normalement en 40 minutes, tout est réglé. Je me réjouis d'avoir la possibilité d'intervenir sur ce sujet, parce qu'il m'en entend et c'est perplexe. Au moment de commencer ma thèse, j'avais en tête de travailler sur le constitutionnalisme global et la constitutionnalisation du droit international. Mais une anecdote m'a invité à la prudence. J'avais entendu parler d'un professeur, auteur d'une thèse vers la fin des années 80, qui avait conclu à la stabilité politique et économique du bloc soviétique. Inutile de préciser que ce professeur a vu l'utilité de ses recherches s'effondrer en même temps que le mur de Berlin. En me remémorant cette histoire, je me demandais si je ne courais pas un risque similaire en travaillant sur la constitutionnalisation du droit international dans le contexte actuel. Mes appréhensions venaient du fait que la notion de constitutionnalisme global m'apparaissait au premier abord comme un oxymore. D'un côté, cette notion me semblait impliquer, historiquement sinon conceptuellement, l'existence d'un pouvoir constituant qui se donne la norme de son action politique par l'adoption d'un document, la Constitution, qui organise le pouvoir politique à l'intérieur de l'État. Mais d'un autre côté, il me semblait évident qu'un tel document constitutionnel n'existe pas en droit international et qu'il n'existe pas non plus de corps politique global composé d'organes législatifs, exécutifs, supranationaux à compétence universelle. J'en ai conclu qu'il était très hasardeux de prendre pour thème de mes recherches doctorales un objet qui a priori n'existait pas en droit positif. Et pourtant, j'aimerais aujourd'hui soutenir qu'il y a une certaine sagesse derrière ce vocable de constitutionnalisme global, à condition de comprendre la constitution du droit international dans un sens très particulier. Je vais prendre appui sur la pensée juridique de Herr-Schlotterpacht afin de montrer qu'il existe une constitution non écrite du droit international, une sorte de constitution de common law immanente au droit international et issue de l'activité interprétative des tribunaux internationaux. Pour ce faire, je vais d'abord soutenir que le droit international, comme tout ordre juridique, possède une constitution qui permet de clore le système normatif. Sur le plan formel, sur le plan logique, cette constitution découle de la norme fondamentale du droit international ou de son hypothèse initiale. Mais sur le plan substantiel, sur le plan matériel, elle repose sur la pratique des États, mais aussi sur les principes généraux du droit. Avec le Torpacte, nous verrons que l'existence d'organes législatifs et exécutifs supranationaux, constitutifs d'un super-État, n'est pas nécessaire pour qu'existe un « rule of law » international, c'est-à-dire un ordre juridique pleinement obligatoire qui s'impose aux États. Cette approche nous permet de situer la constitutionnalité du droit international, non pas dans un avenir plus ou moins distant et utopique, mais dans l'ici et maintenant du droit international. Commençons par l'aspect formel de la question, l'aspect logique. Ici, le Torpacte est très proche de la position de Kelsen. Il conçoit comme une nécessité logique le fait que tout ordre juridique dispose de normes fondamentales, se situant au sommet de la pyramide des normes et permettant de clore le système normatif. La validité juridique de cette norme fondamentale est postulée et sa source matérielle n'a pas d'importance. Ce qui importe, en fait, ce qui est un postulat a priori de tout ordre juridique, c'est la cohérence interne du système normatif et sa complétude logique. Cette complétude du droit implique qu'il n'y a pas de litige non justiciable. Il n'y a pas de litige qui, en raison de la nature des questions qu'il soulève, ne se prête pas à une décision judiciaire. C'est l'importante conclusion à laquelle arrive le Torpacte dans son célèbre ouvrage de 1933, « The Function of Law in the International Community », dans lequel il réfute quatre types d'arguments perçus comme permettant de trancher un litige sur une base autre que le droit. Le Torpacte affirme essentiellement que l'existence ou l'inexistence de normes fondant un recours juridique est une question de fond, et les parties impliquées dans un litige doivent avoir la possibilité de faire contrôler la légalité de leur situation par un juge. Invoquer l'absence de normes applicables ou l'importance politique du litige ne doit pas avoir pour effet de préjuger de la justesse de cet argument en soustrayant l'ensemble du problème à l'appréciation du tribunal. Donc voilà pour la question de la complétude logique du système des normes. Venons-en au deuxième point. Là où le Torpacte se distingue de Kelsen et du positivisme juridique en général, c'est dans la place qu'il réserve au droit naturel, que Kelsen définit comme l'ensemble des normes qui tirent leur validité de Dieu, de la nature ou de la raison. Le Torpacte ne conteste pas l'impossibilité logique pour un ordre de droit naturel d'être valide concurremment à un ordre de droit juridique. Mais il soutient néanmoins que le droit positif intègre des principes de droit naturel, et ce, de moins trois manières différentes. D'abord, l'idée même d'un ordre juridique cohérent et complet implique un principe de justice, ne serait-ce que la justice d'un ordre pacifié par opposition à l'anarchie d'un monde sans droit. Sans cet élément de justice implicite dans le projet d'être gouverné par le droit, il est difficile de voir en quoi le droit serait différent de la force brute. Ensuite, le fait que toutes les normes juridiques découlent de la norme fondamentale implique que l'activité législative n'est pas différente de l'activité judiciaire et qu'il s'agit dans les deux cas d'un effort de concrétisation des normes. Le juge qui rend sa décision concrétise le droit applicable à l'objet du litige et la norme juridique ainsi créée doit sa validité à la norme conférant au juge sa compétence. Or, selon le TORPACT, en autorisant ainsi la discrétion judiciaire, le droit positif a incorporé à l'avance l'ensemble des règles et des principes sur lesquels se fonde le juge pour motiver sa décision. Et finalement, le droit positif incorpore certains principes de droit naturel de manière explicite, comme c'est le cas à l'article 38.3 du statut de la Cour permanente de justice internationale, aujourd'hui l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Cet article identifie comme source de droit, en plus des conventions et des coutumes internationales, les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. Cette mention des principes généraux du droit comme source du droit international visait précisément à reconnaître de manière explicite la complétude du droit et à autoriser les juges à se fonder sur des principes juridiques pour éviter de prononcer un non liquet, c'est-à-dire pour refuser de rendre une décision. Le TORPACT soutient qu'en refusant de reconnaître les différentes manières dont le droit positif incorpore des principes de droit naturel, le positivisme juridique se place en contradiction avec sa prétention à être fondée sur la réalité juridique. Le TORPACT esquisse ici une voie médiane entre le positivisme strict, qui n'accepte comme seule source de droit international que la volonté des États, et le jus naturalis, qui intègre le droit positif à l'ordre prépondérant du droit naturel. Cette troisième voie reconnaît la pratique internationale comme source de droit, mais elle reconnaît également les principes généraux du droit, notamment ceux qui peuvent être déduits du droit privé par un raisonnement analogique, auquel le TORPACT a d'ailleurs consacré une monographie. En réalité, le droit positif et la pratique du droit ont toujours incorporé des principes relevant, à défaut d'une expression plus spécifique, du droit naturel. Seul un refus dogmatique permet au positivisme juridique de l'ignorer. En fait, le TORPACT considère que le positivisme juridique en droit international n'est que l'ombre de son équivalent en droit interne. Alors qu'en droit interne, le positivisme est une théorie de la fonction judiciaire, en droit international, il s'agit d'une doctrine qui revient à rejeter hors du droit une énorme portion des relations entre États. En droit interne, le positivisme postule la complétude du système juridique et l'absence de vide formel, tandis qu'en droit international, il adopte la position inverse. C'est ce qui amène le TORPACT à conclure que le positivisme juridique n'est pas une doctrine valide en droit international, puisqu'elle conduit à nier l'existence du phénomène qu'elle prétend expliquer. C'est sur la base de cette conception substantielle et riche de la légalité que le TORPACT aborde le contenu de la norme fondamentale du droit international. Il rejette aussi bien la doctrine de l'autolimitation de l'État de Jelinek que celle de la législation collective de Trippel. Il refuse même de voir dans la norme Pacta sunt servanda le fondement du droit international, puisque cette norme assujettit encore trop le droit à la seule volonté de l'État. Pour le TORPACT, bien que la pratique des États soit une source de droit, à partir du moment où une norme juridique internationale existe, elle s'impose aux États indépendamment de leur volonté. L'hypothèse initiale du droit international, telle que la formule le TORPACT, est donc que la volonté de la communauté internationale doit être obéie. De la même manière que l'hypothèse initiale du droit interne est que la volonté de l'État doit être obéie. Il est important de préciser que le TORPACT, comme Kelsen, conçoit l'État comme l'expression personnifiée de l'unité du système juridique, ce qui implique qu'il n'y a pas d'antécédence, ni de priorité, voire même de distinction entre l'État et le droit. Ainsi, puisqu'il existe déjà un système de droit international liant les États, le TORPACT suggère que du point de vue juridique, il existe déjà un État mondial, supranational, dont la volonté s'impose aux États, et que cette volonté n'est autre que l'ensemble des normes internationales. Les obligations juridiques des États, dans le contexte actuel du droit international, sont de même nature que celles qui leur incomberaient s'il existait, au-dessus d'eux, des organes législatifs et exécutifs supranationaux. Ce qu'il importe de retenir ici, c'est que du point de vue juridique, les États, le rapport des États au droit international ne serait pas différent s'il existait des institutions supranationales puisqu'ils seraient toujours soumis au même rule of law international. Le TORPACT ajoute qu'en raison de la poussité des normes internationales, cette volonté devra souvent être déduite du fait même de l'existence de la communauté internationale, de sa raison d'être, ou en version originale, from the reason of the thing. Il précise que cela inclut à la fois les engagements contractuels des États et la coutume établie, mais aussi, et je le cite à nouveau, the general principles of law which no civilized community can afford to ignore, c'est-à-dire les principes généraux du droit qui s'imposent à toute communauté civilisée. Cette formulation s'écarte légèrement de celle de l'article 38.3 que j'ai cité tout à l'heure, qui faisait référence aux principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. L'Auteur-Pacte opère en quelque sorte un renversement de l'adjectif civilisé, qui réfère ici au comportement international d'un État, plutôt qu'au caractère intrinsèquement civilisé d'une nation. Un État civilisé, c'est celui qui, dans ses rapports internationaux, respecte les règles inhérentes à la vie en société, telles qu'elles se déduisent de l'institution même de la communauté internationale. Ainsi, certains principes généraux, sans nécessairement satisfaire aux exigences de preuve d'un engagement conventionnel ou coutumier, s'imposent malgré tout aux États civilisés. Dans son article sur Grotius, qu'il considérait comme ce qu'il avait écrit de meilleur, l'Auteur-Pacte fait remarquer que le droit naturel complémente toujours le droit positif dans la pratique du droit international, et que même le droit issu du consentement des États doit son caractère obligatoire à une loi naturelle, c'est-à-dire à la nature sociale de l'homme. Il y aurait ici certainement un parallèle à faire avec George Stell. L'idée centrale est qu'en l'absence d'une législature internationale à compétence globale, les principes qui se déduisent du fait même de la coexistence d'une pluralité d'États doivent être source de droit. L'Auteur-Pacte, comme Grotius, postule que l'homme est un animal naturellement rationnel et social. Les normes qu'il se donne pour organiser son existence collective doivent donc être interprétées à la lumière de son désir naturel de vivre dans une société pacifiée, conforme à son intelligence. Cela revient en quelque sorte à reconnaître l'autorité de la raison comme source de l'ordre international. C'est une approche optimiste de l'histoire et du pouvoir de la raison que Marty Koskinimi a critiqué en disant qu'elle n'était pas philosophiquement plausible. D'ailleurs, s'il y a des philosophes un peu postmodernes dans la salle, je suis sûr que l'idée de l'autorité de la raison, ce n'est pas quelque chose qui vous convainc. Je n'entrerai pas dans ce débat, sauf pour souligner qu'on pourrait aussi reprocher à l'Auteur-Pacte la grande indétermination des normes de droit naturel. Celui-ci rétorquerait certainement, et je le cite en le traduisant, que l'incertitude d'une loi supérieure, d'une « higher law », est préférable à l'arbitraire et à l'insolence de la force brute. Nous en arrivons à l'imbrication des différentes sources du droit international et au rôle du juriste. L'Auteur-Pacte reconnaît que le droit positif n'est pas idéal, qu'il n'est pas parfait. Il arrive fréquemment que les États limitent explicitement la nature de leurs engagements juridiques ainsi que la compétence du juge à cet égard. Ces réserves forment alors des normes de droit positif que le juriste doit reconnaître, mais sans pour autant devenir l'instrument politique des États, ni oublier sa responsabilité de rendre compte rationnellement de l'ensemble du droit applicable. Autrement dit, un traité n'est jamais conclu dans un vide juridique. Il doit toujours être interprété à la lumière de l'intention des parties, mais aussi en fonction de l'arrière-plan juridique sur lequel ce traité est conclu. Similairement, les États peuvent exprimer leur volonté de créer de nouvelles normes et de nouvelles catégories juridiques, mais dès lors qu'ils choisissent de parler le langage du droit, ils sont liés par ces contraintes. C'est aux juristes qu'il revient d'interpréter la valeur logique et légale intrinsèque des obligations souscrites par un État et qui font partie du droit positif. À titre d'exemple, la volonté d'un État ne saurait être source de droit lorsqu'elle est exprimée de manière contradictoire. Si l'expression avait été disponible à l'époque, on sent que l'Auteur-Pacte aurait volontiers invoqué la moralité intrinsèque du droit, « The inner morality of law » de Lon Fuller. Nous en arrivons au troisième point de ma présentation. Cette conception du droit international implique que la seule institution indispensable du point de vue juridique est l'institution judiciaire. La première fonction de l'organisation légale est la préservation de la paix, et cette fonction ne peut être remplie que s'il existe un juge compétent pour dire le droit plutôt que de remettre les litiges aux aléas de la force. Dans toute communauté politique, les sujets de droit doivent pouvoir exiger la résolution des litiges sur la base du droit. D'une certaine manière, ce qui caractérise le droit, plus que l'existence d'un ensemble de règles obligatoires, c'est l'existence d'un juge compétent, pouvant concrétiser le droit applicable à une situation particulière et rendre manifeste son caractère impératif. L'activité judiciaire est ainsi le dernier maillon dans la chaîne de la concrétisation du droit, celui qui fait le lien entre la règle juridique générale, nécessairement abstraite, et le cas individuel nécessairement particulier. S'il n'y a pas de vide juridique sur le plan formel, sur le plan logique, c'est parce que le juge comble les insuffisances des normes par son activité interprétative. On trouve donc en germe, dans la pensée juridique de l'auteur pacte, la conception du droit comme interprétation mise de l'avant dans la seconde moitié du 20e siècle par Dworkin. La fonction judiciaire est une fonction interprétative. Le juge doit mobiliser l'arsenal des règles d'interprétation logique et historique pour rendre effective l'intention des parties et déterminer le droit applicable. Je n'énumérerai pas les différents procédés interprétatifs, voire créatifs, mis de l'avant par l'auteur pacte. Ce qu'il importe de retenir, c'est qu'en dernière analyse, le droit est pour lui non seulement un ensemble de normes, mais aussi, et peut-être même surtout, un ensemble de principes juridiques. C'est ce qui fait que la détermination du contenu du droit par l'interprétation judiciaire n'est pas arbitraire et qu'elle ne se situe jamais dans un vide juridique, même lorsqu'aucune règle expresse ne semble directement applicable. L'interprétation judiciaire est toujours balisée par le droit. J'aimerais maintenant suggérer, dans les dernières minutes de ma présentation, que les principes généraux du droit dans la pensée juridique de l'auteur pacte forment une sorte de constitution de common law du droit international. Une constitution non écrite, perpétuée et enrichie par l'activité interprétative des tribunaux. Comme nous l'avons vu, la théorie du droit de l'auteur pacte, comme celle de Landfuller et peut-être aussi comme celle de Dworkin, est circulaire. La source de l'ordre juridique international ne se trouve pas dans un fait extra-juridique, que ce soit une norme morale, un fait social ou une volonté individuelle, mais dans les principes du droit eux-mêmes, tels qu'ils se déduisent de l'existence d'une communauté juridique internationale. De la « reason of the thing ». Le projet de la légalité internationale, le projet d'être lié par le droit, porte en lui-même ses propres contraintes, puisque le droit est un mode de raisonnement spécifique fondé sur l'autorité de la raison. Ainsi, même s'il existait une charte constitutionnelle globale, cette constitution écrite serait, pour paraphraser le juriste canadien Mark Walters, juridiquement encastrée ou juridiquement imbriquée dans la constitution de common law du droit international. Cette constitution non écrite permettrait d'interpréter le droit constitutionnel écrit à la lumière de ses principes implicites. Il ne faut pas en conclure que la création d'institutions supranationales, la codification du droit international et la conclusion de nouveaux traités sont sans importance, au contraire. L'auteur pacte a été un des premiers à réfléchir au contenu possible d'un Bill of Rights international après la Seconde Guerre mondiale. Par contre, il ne faut pas attendre de ces développements futurs et de l'éventuelle constitution d'un État mondial la production d'un droit constitutionnel international qui aurait à terme un caractère pleinement obligatoire. Avec ou sans institution législative ou exécutive supranationale, du point de vue juridique, les États sont toujours soumis au même rule of law international et à la même constitution non écrite du droit international. Avant de passer la parole à Pierre, je voudrais résumer sommairement mon intervention en soulignant que l'auteur pacte aborde le droit de manière interne, en adoptant la perspective d'un juge international, même avant d'en être un lui-même. Et on rejoint ici, en fait, cette idée évoquée ce matin avec le professeur Cassese d'une communauté épistémique globale créée par les juristes. D'une certaine manière, l'auteur pacte s'intéresse à la légitimité juridique du droit international plutôt qu'à sa légitimité politique. S'il y a un point aveugle dans cette théorie, ce serait la question de l'agir politique qui crée de nouvelles normes internationales. C'est ici que la pensée juridique d'Habermas peut être utile.
Merci beaucoup. Vous avez fait une habile transition, donc je passe tout de suite la parole à Pierre Aurélien pour ne pas gâcher les faits de transition.
L'objet de la seconde partie de cette intervention.
dans sa forme radicale, cette conception sociologique tend à réduire le droit à une de ses fonctions, qui est la stabilisation des attentes face à des conflits contingents. Se contentant d'observer objectivement le droit, au nom d'une forme de réalisme, ces conceptions ne voient dans le droit qu'une obéissance moyenne à des règles. Une telle conception ne peut conduire alors qu'à un positivisme radical, dans lequel le lien entre le droit et l'organisation démocratique d'un État disparaît. La seule justification de l'existence d'une règle est son établissement par le système juridique. Les raisons pour lesquelles nous devrions respecter les règles, par exemple parce qu'elles sont justes, ne sont plus que des arguments perdus. La question de la légitimité du droit devient vide de sens. Le droit, au fond, n'est que parce qu'il est. Il faut même aller plus loin, le droit n'a plus aucune normativité, car il n'est que la validation d'un état de fait existant. Pour reprendre l'expression de Niklas Luhmann, il n'y a alors qu'une anomalie. Une telle réduction objectivement du droit est problématique aux yeux d'Habermas, car elle conduit à la perte de la possibilité d'une transformation politiquement orientée de la société par le droit. Au contraire, si l'objectif est bien l'auto-législation, le droit ne peut pas être la simple domination autoritaire du fait. Le droit doit permettre au pouvoir politique, et donc au citoyen, de modifier ce qui est au nom d'une certaine idée de la justice. Sinon, il n'y a pas d'auto-législation, mais simplement l'acceptation résignée de ce qui est. Il y a donc lieu de garder un aspect de légitimité dans notre conception du droit. À l'opposé de cette conception sociologique du droit, la seconde réduction est celle réduisant le droit à un idéal de justice. C'est la position rossienne d'un droit rationnel qui est ici dénoncée, car il se limiterait à être un discours philosophique sur la justice. L'argument central est alors le suivant. Tout projet rationnel d'une société juste doit se concrétiser dans une réalité qui, malheureusement, ne se laisse pas si facilement convaincre. Pour Habermas, la porte de sortie de ce modèle ne peut être alors que ce qu'il appelle un contextualisme, c'est-à-dire le fait pour ce projet rationnel de pouvoir se concrétiser que dans un contexte déjà imprégné par ce projet. Où, là encore, aucune modification politiquement orientée de la société n'est possible. Le discours du droit rationnel étant condamné à rester dans des sphères abstraites ou à ne porter ses faits que dans un contexte où il a déjà réussi. Dès lors, la conciliation de la légalité et de la légitimité sont aux yeux de Habermas le seul moyen d'obtenir une transformation politiquement orientée de la société. Et cette modification politiquement orientée est la condition de l'autodéfinition et donc de l'autodéfinition. Quelle est la place de la Constitution dans cette construction? Dans la théorie habermasienne, la Constitution est aussi ici Habermas, et le concept juridique d'autolégislation. Ce sont les conditions institutionnelles de la production d'un droit à la fois contraignant et légitime. repenser la question de la manière dont vous faites en sorte de respecter les principes de justice. Or, si ce principe pouvait être garanti par les États dans le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel l'auteur part écrit, Averroes s'écrit, lui, en réaction à d'autres phénomènes qui rendent problématique la croyance en la capacité des États à garantir ce principe de justice. La nécessité du discours averroésien, qui peut alors apparaître comme un complément du projet de l'auteur parti, apparaît alors comme une modification du contexte dans lequel sont écrites ces théories. En effet, Averroes aborde la question de la consolidation du droit international en trois types d'écrits. Les premiers sont les écrits théoriques réunis dans Après l'État-nation, écrits après droit et démocratie. Ils visent à interroger la pertinence de sa théorie de la démocratie dans le cadre d'une érosion des États-nations. En simplifiant en France, Averroes pointe les tendances de l'économie internationale, dans lesquelles les systèmes économiques et financiers sont de plus en plus indépendants des systèmes politiques. Les deuxièmes séries d'articles sont les articles plaidoyant en faveur d'une constitutionnalisation du droit international. L'un d'entre eux a par exemple été provoqué par la Seconde Guerre du Golfe, déclenchée par les États-Unis sans l'accord du Conseil des États-Unis. Les troisièmes, enfin, sont les articles en faveur d'une constitution européenne. Deux facteurs ont provoqué ces articles, le traité établissant une constitution pour l'Europe et la crise de la dette. Ces articles posent en réalité deux séries de questions. D'abord, est-ce qu'une constitution non étatique peut exister ? Et est-ce qu'une constitution non étatique doit exister ? La première question a donné lieu à un débat connu entre Averroes et Détourville. L'argument central de Grimm était l'absence de peuple européen. Puisqu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de solidarité entre les citoyens possibles. La solidarité entre les citoyens étant l'une des composantes de la Constitution et par suite nécessaire à la réalisation d'une société démocratique. Aucune démocratie européenne n'est possible la chaîne de légitimation de la Constitution européenne inclurait à la fois une légitimité propre, c'est les citoyens européens directement membres du pouvoir constituant, et la légitimité étatique. Légitimité étatique, qui n'est que la légitimité issue des peuples des États. J'aimerais simplement, pour conclure, revenir à la différence entre l'auteur part et la Bernas. L'auteur part écrit dans un monde où les États sont occupés et sont le lieu central de la garantie du principe d'autonomie. Habermas écrit dans une perspective différente. Les États ne sont plus omnipotents. Des forces systémiques échappent à leur contrôle. Et la question est alors de savoir comment est-il possible de les réguler et d'organiser la légitimité de cette régulation. Cette seconde différence se superpose à la première, celle qui oppose un juge.